Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52. Depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes. En l'occurrence, nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous êtes sur le point d'écouter la deuxième partie de notre épisode sur le gaming. Alors pour être très franche, je ne joue pas du tout. Et quand les filles m'ont proposé de faire un épisode sur ce sujet, j'avais plein de clichés en tête. Mais en réalité, c'est passionnant. Que vous jouez ou pas, vous vous rendrez compte que ces espaces sont concernés par les mêmes problématiques qu'ailleurs. Par exemple au cinéma ou dans le monde du travail. Vous vous apercevrez également, et ça c'est un thème qu'on aborde dans la première partie, que je vous recommande chaudement, que beaucoup des gamers sont en réalité des gameuses ou des gamereuses, et que finalement, ils s'y jouent les problématiques de cyberharcèlement et de sexisme qu'on peut retrouver dans d'autres espaces. D'ailleurs, dans la première partie, nous parlerons notamment, ou nous avons parlé plutôt, du Gamergate, qui est l'équivalent MeToo des espaces de gaming. Dans cette seconde partie, nous parlons des questions de représentativité et d'identification qui sont corrélées des personnes minorisées de façon générale, notamment non blanches, et en plus de notre VIP guest Jennifer des Afro-Gameuses, nous en parlerons avec l'association Game Impact qui s'occupe notamment de faire de la pédagogie sur ces questions-là autour des créateurs de contenu. Ils et elles sont vraiment passionnantes. La troisième partie, dans une autre perspective, porte sur les enjeux autour de la créativité des contenus. L'ensemble est à écouter mieux dans l'ordre, mais en tout cas, vous pouvez choisir le thème que vous préférez en premier. Et pour vous planter un peu le décor, on a enregistré cet épisode en live sur Twitch. Il dure assez longtemps, donc on l'a redécoupé pour qu'il soit plus digeste, pour que vous puissiez choisir votre thématique. Nous avons traité ce sujet en coordination avec le magazine La Déferlante, dont le dernier numéro porte sur le thème « Jouer ». Il est sorti le 8 novembre en kiosque. On vous en recommande la lecture également. À tout à l'heure et bonne écoute.
Voilà, donc on fait ce soir une émission spéciale sur le gaming et les féminismes. Et là, on va rentrer dans la partie sur la question des représentations, de la diversité et des enjeux de représentation. Et justement, tout à l'heure, Jennifer, quand je t'écoutais, c'est marrant parce que je me disais, il y a l'agressivité qu'on peut ressentir en tant que gameuse, les difficultés que tu décris à s'approprier ce terme, mais il y a aussi ce qu'on appelle la capacité d'identification, c'est-à-dire que quand tu parlais de tes difficultés, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, mais toi, pendant toute la période où tu traversais ça, quels étaient les avatars que tu choisissais, en fait ?
Excellente question. Écoute, j'avais le choix des couleurs de peau dans les MMORPG donc, auxquels je jouais. Et c'est vrai que pendant longtemps, la couleur de peau qui pouvait se rapprocher le plus à la mienne, c'était, on allait dans du grisâtre, voilà. Donc je jouais, voilà, je jouais à des jeux fantaisistes, hein, où je pouvais incarner tout plein d'elfes, de créatures absolument incroyables. Et quand je choisissais un personnage humanoïde, c'était la limite. C'était vraiment pas des couleurs de peau proches des miennes. Des cheveux, n'en parlons même pas. Les traits, les caractéristiques physiques, etc., n'en parlons même pas. C'est, en fait, je pense que le premier jeu où j'ai pu commencer à avoir quelque chose qui puisse se rapprocher de moi, c'était les Sims. C'est grâce aux Sims, voilà, qui, où on a énormément de possibilités de personnalisation, que j'ai pu commencer à faire des personnages qui me ressemblent. Donc moi, j'étais beaucoup dans le multi avant aussi, et donc j'ai connu très très peu de jeux d'aventure ou autres, où en gros t'as un héros que tu vas incarner et que tu vas jouer pendant tout le jeu. Souvent c'était des hommes blancs, hétéros, et voilà.
Ouais, c'est complètement fou quand on y pense, parce que on pourrait penser que le gaming c'est un espace de créativité infinie. On pourrait même imaginer des couleurs de peau même pas humaines. Enfin, on pourrait être dans un truc où le ciel c'est la limite, quoi. Et finalement, il y a pas mal de choses qui se rejouent dans cet espace. Et pas de surprise, la question qui se pose pour la représentation des femmes, comme tu le disais à juste titre, elle se pose de façon intersectionnelle, puisqu'elle concerne aussi les autres personnes minorisées, que ce soit par leur couleur de peau, leur genre, leur orientation, leur classe sociale, leur validité, leur âge, etc. Enfin, en fait, c'est fou parce que, bah, comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est en lien avec l'informatique, les plateformes, les supports, c'est une majorité d'ingénieurs où les hommes blancs, cisgenres et hétéros sont surreprésentés. Donc, les représentations sont biaisées par ce qu'on appelle les biais cognitifs. Hein, finalement, l'imaginaire, c'est un imaginaire assez blanc-triarcal, et ça n'est pas sans conséquence. Pour en parler ce soir, on a invité également Thomas et Camille de l'association Game Impact, une association créée en 2016 dans le but de changer le paradigme extrêmement réactionnaire dans lequel se fait la création de jeux vidéo. Thomas, Camille, est-ce que vous êtes en ligne ?
Alors, qui est en ligne là ? À qui avons-nous avec qui ?
Camille ou Thomas ?
Camille ou Thomas ? Bonsoir, bonsoir.
Hello. Est-ce que vous nous entendez ?
Juste pour info, donc on attend Camille et Thomas de Game Impact. Donc c'est ce qui a marqué sur leur page Facebook. Donc c'est un média responsable et fun qui accompagne et promeut la transition de l'industrie du jeu vidéo vers plus de sens. Vraiment tout un programme.
Un taf absolument génial. Ok, super. On va peut-être commencer par Camille. Bonsoir.
Hello, je suis là, mais je ne sais pas si on me voit.
On t'entend très très bien.
Ouais, on t'entend bien, c'est le principal. Je te propose de nous présenter Game Impact.
Du coup, voilà, Game Impact, qui a été créé à l'initiative à la base de Simon Chanu, qui était à Make Sense, donc une association plutôt tournée entrepreneuriat social, et qui voyait plein de secteurs se tourner vers l'impact social, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., mais rien au niveau du jeu vidéo. Et du coup, Simon, se disant que c'était un média extrêmement important pour l'industrie culturelle, comme ça a été dit plus tôt dans le live, il est allé chercher d'autres personnes avec qui monter une association qui permettrait de sensibiliser à la base plutôt un public de jeunes développeurs à différents enjeux sociétaux pour essayer de faire du jeu vidéo un média progressif. Et donc depuis 2016, l'association a fait plein de choses. Au départ, son activité, c'était surtout d'organiser des tables rondes et des débats. Et l'association se présente plutôt comme généraliste. Donc, il y a eu des sujets sur les seniors dans le jeu vidéo, comme sur la collapsologie, donc les questions de finitude des ressources, de dérèglement climatique, etc., et jeux vidéo, les divers sujets autour de la représentation. Nous, le plus important à chaque fois, c'était d'essayer de mettre en avant des personnes concernées et de leur donner une plateforme pour qu'elles puissent s'exprimer sur un sujet et de les rendre audibles justement à un public de jeunes développeurs et développeuses pour que Yael puisse s'en emparer. Nous, du coup, on est une communauté assez large avec plein de gens qui sont venus autour de ces différents sujets. Forcément, entre les gens qui s'intéressent aux enjeux environnementaux et ceux qui s'intéressent aux questions d'inclusivité, par exemple, il peut y avoir plein de biais ou de ressentis, de vécus, d'intérêts différents. Et on fonctionne avec un principe de brave space, donc un espace d'encouragement en se disant que on fait en sorte que tous et toutes, on essaye de développer une conscientisation aux différents enjeux sociétaux ou enjeux de discrimination auxquels on n'est pas forcément sensibilisé à la base, et on essaye de travailler avec ça.
Top, félicitations,
ouais,
bravo.
Bravo, bravo.
Franchement, c'est passionnant. À propos justement d'inclusivité et de capacité d'identification, Marga, tu as récupéré un témoignage.
Oui. J'ai discuté de tous ces sujets-là avec Maëlle, qui se définit comme une personne trans. Donc forcément, les enjeux de représentation dans le jeu vidéo, c'est...
Bon courage.
Bon courage de se retrouver, de s'identifier en tout cas à des personnages. Donc on en a discuté autour d'un verre de sa pratique des jeux vidéo. Et d'abord, on a fait une petite recherche sur un célèbre moteur de recherche pour vous. Juste comme ça, juste pour voir. Je vous laisse écouter ce que ça donne.
Il se passe que du coup, c'est une vidéo YouTube de 10 mecs, qui ont leur visage flouté sur comment le féminisme ruine les jeux vidéo. Ça me tue.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité? Est-ce que le féminisme n'essaye pas de tuer?
Vraiment pas. Je sais pas quoi dire là-dessus, mais le féminisme, il est juste là pour donner un peu de diversité. Mais c'est ça. Enfin, mais le truc, c'est qu'ils sont tellement centrés sur leur cercle hyper masculin de jeux vidéo, qui sont hyper centrés sur le regard masculin, que dès qu'il y a un regard un petit peu, un tant soit peu féminin, parce que même si ces jeux vidéo, ils ont des personnages féminins, ils sont quand même faits par des hommes, ça râle.
Un regard féminin, c'est tout.
Et toi, tu trouves des jeux vidéo où tu te sens représenté, ou c'est compliqué?
C'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué d'en trouver, parce que, la représentation trans dans les jeux vidéo, elle est presque inexistante. Mais c'est un autre débat. Hein. Mais après, des personnages forts et féminins, j'en trouve dans genre 2 ou 3 jeux vidéo. Et encore, il y a quand même des choses à redire sur beaucoup de jeux. Ouais, sur leur apparence notamment. Souvent, oui, c'est ça, quand c'est des femmes fortes, elles sont hyper sexualisées. On en parlait avec Bayonetta, surtout dans les jeux genre japonais ou même en général.
Mais à quoi tu joues du coup? Toi, en tant que personne trans, dans un milieu qui est quand même hyper compliqué, comment tu fais pour survivre en fait, pour continuer à jouer et à t'intéresser à
tout? Je suis pas le plus grand gamer non plus, mais en général, je joue soit à des jeux qui essaye pas trop de donner ce regard masculin, ou sinon juste je laisse ça de côté et me concentre sur l'histoire et pas forcément les personnages. En ce moment, je joue beaucoup à The Witcher, et l'utilisation des personnages féminins dans The Witcher, elle est un peu... C'est hyper sexualisé aussi. Genre, il y a quelques personnages forts, mais ils sont quand même... ils se font pécho par la moitié des personnages. C'est... En vrai, je laisse un peu ça de côté et essaye de plus me... Enfin, je sais que je vais pas forcément réussir, et j'essaye de pas avoir d'attente. Comme ça, quand il y a un truc bien, je suis en mode genre « Oh mon Dieu! Waouh, une once de représentation qui est un peu correcte !» Genre, trop bien. Voilà.
Ouais, wow. Faut pas avoir trop d'attentes, hein. C'est comme
exactement.
Quand t'es une femme dans la vie.
Exactement, low expectation.
De manière générale.
C'est ça, et c'est vrai, c'est dans son témoignage à Maëlle, en plus on trouve pas mal de choses dont on a parlé tout à l'heure, donc le gatekeeper notamment, quand il dit qu'il y a les mecs qui, dès qu'ils se sentent attaqués, dès qu'il y a des représentations un peu féminines dans certains jeux vidéo, des personnages auxquels ils s'y attendaient pas, et ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le fait de se revendiquer comme gamer ou gameuse. Lui, il dit « Ah ouais, non, moi, je suis pas vraiment gamer, voilà. Parce que je joue que à ça. » Mais si, Maëlle, tu es un gamer.
C'est ça.
Ben, à ce propos, Thomas, Camille, ça me plairait de connaître votre retour sur ce genre de témoignage, parce que j'imagine que ça vous étonne pas spécialement. Du coup, sur cette question, ce que je trouve absolument génial, c'est que vous avez fait un guide. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder, parce qu'il est en ligne... accessible gratuitement. Vous avez fait un guide qui s'adresse aux créatrices de jeux vidéo, dans lesquels vous donnez des conseils super utiles et surtout précieux pour diversifier les représentations. Est-ce que je vous laisse présenter cette initiative et peut-être nous faire un retour sur le témoignage de Maëlle?
Alors, j'ai bien envie de donner la parole plutôt à Thomas, puisque moi, à l'époque, j'ai pas travaillé sur la création du guide. Et je pourrais compléter avec qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, comment ça a évolué.
Top.
Ok, bah du coup je peux expliciter un petit peu. Donc y a eu plusieurs phases un peu d'historique sur la création de ce guide. Initialement, bon, il se trouve que donc moi je suis dans les cofondateurs de l'asso Game Impact et avant la fondation de l'asso, j'avais conçu un cours pour les écoles de jeux vidéo. Vu qu'en tant que game designer, bon, je donne des cours dans ce type d'école et sur justement les questions de représentation et bah pour essayer de proposer aux étudiants comment faire des jeux moins sexistes, moins racistes, etc. Dans le cadre des activités de l'association, on a eu l'occasion d'organiser une game jam avec une école qui s'appelle Epitech, qui est une grosse école d'informatique pour les 20 ans de l'école. Une game jam, en gros, c'est un peu comme un hackathon. Donc, c'est un événement où pendant 48 heures, les gens vont se réunir et créer un jeu vidéo. Et puis voilà, à la fin des 48 heures, on a un prototype de jeu qui tourne et on est content, on a fait un jeu, on s'est rencontrés, voilà, c'était sympa. Et donc, c'était cet événement-là qui était organisé pour les 20 ans de l'école. Et là, l'objectif, bah, c'était justement d'avoir comme thématique l'inclusion. Et donc, bah, pour aider les étudiants qui, pour beaucoup, étudiantes qui, pour beaucoup, bah, débarquaient un peu dans cette thématique-là, surtout qu'évidemment, en école d'informatique, il doit y avoir peut-être 5% de femmes, enfin, c'est vraiment ce pourcentage-là. Et ben, on a produit ce carnet qui se basait entre autres sur les cours qui avaient pu être créés précédemment, et puis avec des ressources complémentaires, et qui avait pour but de leur donner des pistes assez accessibles, assez compréhensibles, pour pouvoir proposer des représentations plus variées, plus inclusives, plus respectueuses, etc., etc. Et puis par la suite, on s'est dit que c'était une ressource qui pouvait être utile à tout un tas de studios, parce que il y a beaucoup de studios qui en fait peuvent être intéressés aujourd'hui, moins il y a une dizaine d'années, mais plus aujourd'hui, par les démarches d'inclusion, mais qui savent pas exactement comment faire en fait, et qui peuvent aussi avoir des difficultés à former leur staff en interne. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, ce carnet autant qu'il serve à tout le monde, et donc on l'a mis à disposition gratuitement sur le site de Game Impact, que vous pourrez aller voir, bon, pour faire la petite pub rapidement sur gameimpact.fr. Il est à dispo en open source, tapez dedans.
Ouais, et il est super intéressant, j'y ai appris vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens d'expliquer. Tu as donné des cours, tu me disais, en 2014, tu as commencé à donner des cours pour sensibiliser sur ces sujets, notamment à la suite du Game Impact,
Gamergate.
Voilà, merci, je vais retrouver l'hashtag.
Gatekeeper, Gamergate.
Voilà, je m'embrouille.
Vocabulaire.
Mais effectivement, tu m'avais dit l'autre jour au téléphone, et ça m'a fait sourire, qu'à l'époque, tout le monde s'en battait les flancs, et finalement, aujourd'hui, c'est un argument marketing.
Ouais. Effectivement, il y a une dizaine d'années, vraiment, tout le monde s'en tapait. On parlait de ces sujets, mais les gens vous regardaient comme deux noms de flancs, mais de quoi tu parles, quoi? Féminisme et jeux, inclusion, enfin, c'est des termes qui n'existaient même pas, quoi. Aujourd'hui, effectivement, vers la fin des années 2010, les studios ont commencé à prendre conscience. En fait, il y a eu suffisamment de mouvements dans la pop culture, notamment dans le cinéma, la bande dessinée, etc. Et puis le Gamergate, comme vous disiez, pour que, bon, ça commence à se voir qu'il fallait faire un effort. Je pense que le jeu vidéo s'y est pris quand même un peu plus tardivement que d'autres médias comme le cinéma, où on a vu ce genre de choses arriver quand même 2-3 ans plus tôt. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a à la fois des efforts réels de l'industrie, à la fois, effectivement, c'est aussi opportuniste, c'est pour des questions d'image, il faut pas passer pour, les gens réac, quoi. Avec, parfois, évidemment, des choses qui peuvent être, où ça se voit un peu que c'est cet opportunisme. Il y avait notamment une histoire assez marrante où il y avait un studio de jeux assez connu, je crois que c'était Bethesda, qui font notamment les Elder Scrolls, Skyrim, etc., dans des gros jeux de rôle, qui, à l'occasion de la Pride, faisait toute une communication sur leurs réseaux sociaux dans les pays occidentaux sur la Pride, c'est trop bien, mais dans tout un tas d'autres pays où la législation sur les LGBT est beaucoup plus... discriminatoire, on va dire, ne faisait pas cette communication. Donc en gros, ils faisaient leur com dans
Purple washing, à fond les ballons, quoi.
À fond, quoi, complètement. Et sur ce sujet, je pense aussi, ça c'est mon petit, pour continuer sur les questions d'enseignement, moi comme j'ai enseigné dans une quinzaine d'écoles, je vois assez bien comment ça se passe. Je pense que les écoles prennent pas du tout encore suffisamment leurs responsabilités là-dessus, puisque les écoles, elles vont former évidemment les futures développeuses, développeurs. Les écoles, c'est un milieu qui est de jeux vidéo, c'est un milieu qui est essentiellement privé. Il y a assez peu de formations publiques, il y en a quelques-unes. Mais voilà, 90% du paysage, c'est plutôt du privé, et qui vont avoir évidemment bah, pour objectif principal le, comment dire, leur, bah, un objectif financier. Hein. Et donc leur objectif numéro un, ça va être de pouvoir présenter des chiffres, de regarder, on a placé tant, tant de pourcents de nos étudiants et étudiantes, et donc venez chez nous. Quoi. Et ah du ouais, coup, wow. Et leur objectif, ça va être avant tout de leur apprendre des. D'en faire des outils, on va dire, bankable sur le marché du travail, et donc d'apprendre des outils de production de jeux, de programmation, de graphisme, etc. Et par contre, apprendre de la réflexion sur notre société, c'est pas du tout dans leur priorité, surtout que ça voudrait dire bah, dégager des heures d'intervention en plus, donc du budget en plus. Et moi, je me suis ainsi retrouvé une fois en proposant justement ce type de cours à la directrice d'une école, une des trois plus grosses écoles françaises, la directrice qui me fait en face, mais Monsieur Planck, l'école n'est pas là pour apprendre aux étudiants à réfléchir. Et elle me sort ça comme wow. ça.
Ah ouais, la violence. Ouais,
c'était,
ah,
d'accord, ok. Je l'ai regardé et puis on n'a pas continué la conversation très longtemps.
Non, c'est pas la peine.
Voilà. Et bon, et je pense qu'il devrait y avoir un peu de. Enfin, les écoles vont finir par s'y mettre parce que c'est dans l'air du temps. Mais il devrait y avoir, à mon avis, des de la législation des pouvoirs publics qui ont le pouvoir d'imposer ça, en fait, pour dire bah, il devrait y avoir X jours de cours par an. Sur ce type de sujet. Et on commence à voir ça très vite fait arriver. Après, je termine cette longue diatribe. Typiquement, le CNC, le Centre National de la Cinématographie, qui est ben, l'institution qui finance le plus le jeu vidéo en France, il doit filer quelques dizaines de millions d'euros en subvention aux studios de jeux vidéo, depuis assez récemment, conditionne l'obtention des subventions au suivi d'une formation sur le harcèlement, par les dirigeants et dirigeantes de la boîte. Bah là, pour le coup, ils sont obligés. Alors après, ça donne des résultats ou pas, à pouvoir. Mais je pense qu'il y aurait ce genre de mesures à faire aussi au niveau des écoles. Voilà, c'était un peu long, désolé.
Non, non, mais c'est super intéressant. Et comme d'habitude, ça nous montre à quel point la punition du porte-monnaie reste celle qui, de loin, marche le mieux. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous faire comme retour, c'est la question de la responsabilité, donc au sens étymologique, l'habilité à répondre à la situation qu'évoquait Jennifer tout à l'heure, hein, sur le fait que sur les différentes plateformes, il n'y a pas forcément de prise de conscience de lutte contre le sexisme, que quand les personnes se font, les gamereuses se font harceler, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de réactions, il n'y a pas de prise de mesure du problème, on est face à un blocage systémique finalement. Et, et sur une autre question que le genre, parce que malheureusement la question des représentations se pose aussi sur les autres façons qu'on peut avoir d'être minorisé, j'ai découvert aussi grâce à votre guide que aux États-Unis où la statistique raciale est autorisée, la statistique ethnique pardon, plus de 50%, donc en tout cas une grosse majorité des joueuses sont des personnes non blanches. Et Jennifer, si tu es toujours en ligne, j'avais envie de te demander si c'était, d'après toi, la même situation en France, si la majorité des, s'il y avait une grosse majorité de personnes non blanches qui jouaient aux jeux vidéo, et si les enjeux de représentation et ce décalage étaient à peu près équivalents ou pas du tout. Jennifer, est-ce que tu nous entends?
Moi, je pense que oui. Vous m'entendez?
Oui, super.
D'accord. Je pense que on est sur des chiffres qui doivent être assez près de ça. Moi, quand je regarde des statistiques, c'est vrai que j'ai plus regardé au niveau des personnes noires, mais comme on n'en a pas en France de statistiques ethniques, on ne peut pas aller vérifier ce genre d'infos. Mais il me semble qu'on était, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en France, on est entre 5 et 15% en tout cas de personnes noires qui vivent en France. Et pour les personnes racisées, si on cumule tout ça, forcément, en fait, on arrive à un chiffre quasiment équivalent. Mais si on se base juste sur les impressions, sur la pratique, sur les voix aussi qu'on entend, je pense qu'on est à des chiffres quasiment similaires. Et oui, au niveau de ce que souhaiteraient en tout cas voir ces personnes-là dans le domaine, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Tout le monde veut être vu, veut être entendu. Et pour revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand on voit effectivement qu'il y a du changement, que des éditeurs commencent à s'intéresser à la question, que des écoles. En fait, il y a une question d'opportunisme toujours derrière. Moi, c'est ce que je remarque la plupart du temps.
Ouais,
Et
la
moi, je suis
sincérité n'est pas toujours au
présidente d'une
rendez-vous.
association. Ouais. Je suis présidente d'une association et c'est des choses auxquelles je fais hyper attention dans le sens où j'ai pas envie de m'associer avec des gens où je sais que ce n'est que de l'opportunisme. Mais en
Là, je
même
te
temps,
comprends.
derrière, je suis aussi confrontée avec ce truc où j'ai envie de mettre en avant ces personnes-là qui sont déjà invisibilisées. Donc, il y a toujours cette contrebalance, ce juste milieu à avoir. Et c'est extrêmement compliqué, en fait, de se positionner dessus, surtout quand tu veux rester indépendant, bah, comme la déferlante hein, nous disait tout à l'heure. Quand tu veux faire ton truc et que tu n'as pas envie de tomber dans un schéma capitaliste ou quoi, c'est hyper compliqué, quoi.
Oui, et en même temps, tu veux de la visibilité, donc c'est toujours des jeux de d'équilibre à trouver. J'ai pas, pardon.
Non, c'est juste pour si je sais pas si vous passez à la question d'après ou si on peut réagir aussi à celle-là.
Ah,
Oui,
tu
bien
peux
sûr,
réagir,
bien sûr,
tu
avec
peux
grand
réagir,
plaisir.
Camille.
Je suis désolée, il y a
Ok.
une petite
Il y a un petit temps décalage.
décalage.
Il y a un petit décalage en fait entre le moment où vous parlez et le moment où on vous reçoit, mais on vous reçoit très très bien.
Camille, à ton tour.
Ça marche. Non, bah, du coup, enfin, pour compléter tout ce qu'a partagé Jennifer, c'est vrai qu'on malheureusement on peut pas tellement projeter sur les joueuses. Par contre, on peut avoir des statistiques sur les représentations dans les personnages. Et si on regarde par exemple les jeux nominés pour un Game Award entre 2003 et 2018, on voit que les jeux où il y a seulement un personnage, on ne peut jouer qu'un personnage non blanc, c'est 3% des jeux.
Oh, wow.
60% des jeux, c'est des personnages blanches qu'on peut incarner uniquement. Et après, il n'y a que 23% des jeux qui proposent de choisir potentiellement l'origine, enfin, la racialisation du personnage.
Ah
Donc,
ouais, super violent.
Donc,
Super
c'est
violent.
des chiffres qui sont quand même assez bas et super violents. Et c'est vrai
Ouais.
que là encore, malheureusement, on n'a que les chiffres aux États-Unis. Mais alors, je crois que non, c'est plutôt au niveau international, il y a l'International Game Developer Association qui, dans son rapport sur la diversité en 2016, montrait qu'il y avait 76% des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui sont blancs, blanches. C'est sûr que, bah, après, quand, par exemple, l'industrie du jeu vidéo a essayé on parlait de social washing, de se placer, soi-disant soutenir, récupérer le mouvement Black Lives Matter au moment où il y a eu un grand regain en juin 2020, bah, ça a été très critiqué par les personnes concernées parce que bah, il y a plein de choses où on sait que l'industrie est majoritairement blanche, on sait que les personnes minorisées ont des conditions de travail moins confortables, c'est plutôt des contrats précaires. Du coup, les initiatives qu'il y a pu y avoir ont été aussi l'objet de vives attaques. Notamment, il y a Riot Games, qui est le créateur de League of Legends, qui avait fait un fonds de soutien de 10 millions de dollars pour financer les initiatives des minorités raciales. C'était des
Wow.
bourses d'études, des accompagnements de start-up. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de voix de la communauté noire-américaine qui se sont élevées en disant, bah non, on n'est pas OK parce que au lieu de faire des nouveaux fonds et de faire comme si vous allez faire de nouveaux projets, occupez-vous des vrais problèmes et essayez de faire en sorte que le fonctionnement de l'industrie soit plus inclusive dans les faits, quoi.
Ah ouais, bah surtout que League of Legends, pour les gens qui, comme nous, ne s'y connaissent pas de ouf, c'est un jeu qui a une visibilité énorme, hein. C'est vraiment le mastodonte des jeux, notamment, il me semble, je parle sous ton contrôle, que c'est une discipline de e-sport qui est considérée comme quasi olympique.
Ouais,
Alors,
League of
juste.
Legends, c'est un peu. Je parlais de jeux auxquels je jouais quand j'étais ado, par exemple. Bah, LOL, ça faisait partie de ces jeux-là où j'ai passé énormément de temps et qui est effectivement vu comme voilà, ce jeu de stratégie, d'équipe, de collaboration où il se passe énormément de choses. Enfin, c'est une opportunité de ouf. Et oui, sur le, enfin, ce que tu disais, Camille, sur le mouvement Black Lives Matter et l'appropriation de ça aussi par les marques, bah, ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté aussi. C'est vrai que quand j'avais vu ça, ben, j'étais extrêmement en fait choquée de voir que les marques souhaitaient manifester leur soutien. Vous savez, ils mettaient tous le carré noir avec un petit texte en fond blanc pour dire que ben, chez nous, on n'est pas comme ça. Nous, on croit plutôt à l'égalité raciale, ethnique, etc. Nous, on promeut le bonheur et la joie de vivre. Et au fond, quand tu vas regarder dans la vidéo comment ça se passe, chez Twitch, chez d'autres studios que je n'ai pas cités, tu te rends compte qu'il se passe, qu'il y a énormément de cas, en fait, de harcèlement, de cas de discrimination qui se passent au sein même des productions et que ces personnes-là, comme tu disais, travaillent dans des conditions absolument horribles. Donc, en fait, on est face à un énorme mur d'hypocrisie, quoi.
Ah oui, non, mais du coup, si je comprends bien, en vous écoutant, il n'y a absolument aucune cohérence, autant dans les politiques RH que dans les politiques tout court, que dans les choix, que dans les décisions de faire du marketing avec tout ça, qui sont parfois hyper hypocrites. Et c'est d'autant plus frustrant que même sur la création, même sur les personnages en eux-mêmes, j'ai cru comprendre en lisant votre guide que finalement, la reproduction des clichés fait que quand tu choisis un personnage non blanc, tu as très peu de chances de survie dans la plupart des jeux un peu mainstream. Et ça, l'air de rien, ça fait qu'on ne va pas voir des personnes blanches choisir des personnages non blancs ou même des personnes non blanches choisir des personnages non blancs. De façon générale, on ne va pas avoir envie d'être un personnage non blanc étant donné qu'inconsciemment, on se dit qu'on
ne va
pas survivre. C'est quand même assez ouf.
Ouais, ça, je ne sais pas trop si... pardon, vas-y, Camille, je t'en prie.
Non, vas-y, je vais compter.
Ok. Oui, ça, après, on va dire que la couleur de peau des personnages va, à ma connaissance, jamais corrélée à leur puissance dans le jeu. De base, on a à peu près autant de chances de survie, de s'en sortir, quelle que soit la couleur de peau du personnage qu'on joue dans les jeux où on peut la choisir, quoi. Après, probablement que les réactions, dans le cas de jeux en multijoueur, probablement que les réactions des gens en face de nous vont être différentes. Ça, je joue pas beaucoup aux jeux en multijoueur, donc je suis pas très bien placé pour le dire. Par contre, peut-être qu'un autre élément qui peut être à évoquer là-dessus, c'est aussi les raisons pour lesquelles ces représentations, elles évoluent assez lentement. Et une raison importante, c'est le coût de production des jeux, en fait. C'est que, bon, il y a le côté, évidemment, c'est fait par des mecs hétéro cis, etc., etc. Mais les premiers jeux ayant été des produits de leur époque et avec tous les biais et les stéréotypes qui allaient avec, les publics, quelque part, ils sont habitués et ça parle à des mecs hétéro cis, tout ça, qui sont quand même... un public qui dépense encore aujourd'hui beaucoup d'argent dans les jeux. Et du coup, un jeu, aujourd'hui, les gros jeux, ce qu'on appelle les triple A dans les jeux vidéo, donc l'équivalent des blockbusters, donc les Assassin's Creed, les Call of Duty, etc., un jeu, c'est plusieurs centaines de millions d'euros à produire. Le jeu le plus cher qu'a communiqué sur sa sortie, c'était Red Dead Redemption 2, qui est en gros une espèce de truc western, monde ouvert immense, et qui a communiqué un chiffre à 800 millions de dollars, sachant qu'il y a la moitié en production et la moitié en marketing. Donc c'est des machines marketing aussi titanesques, c'est hallucinant. Et du coup, l'éditeur...
C'est plus que certaines séries qu'on peut voir sur certaines plateformes, parce que c'est un blockbuster, c'est énorme.
Et des budgets ciné, quoi.
Ouais, c'est titanesque, et j'avais regardé le budget de Star Wars épisode 8 pour faire la comparaison avec le blockbuster de l'époque, et c'était 250 millions de dollars de production. Alors il n'y a pas le marketing avant, je crois. Donc ça veut dire que Red Dead, le jeu en question, il a été plus cher à produire que Star Wars épisode 8, de toute façon. C'est beau. Hein. Et du coup, le truc, c'est que l'éditeur, donc c'est la structure qui allonge le pognon, qui paye le développement du jeu, l'éditeur, il met autant de pognon sur la table, il veut s'assurer que ce soit rentable, quoi. Et pour s'assurer que ce soit rentable...
Il veut pas prendre de risque à ce prix-là.
Exactement. Et du coup, pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire à peu près la même recette qu'avant, en changeant deux, trois trucs, histoire de montrer qu'on innove un peu, parce que, voilà. Et ça, c'est aussi un facteur assez important du renouvellement assez lent des recettes, parce que ça coûte tellement cher que c'est hyper risqué de renouveler la recette. Et c'est pour ça aussi que, très rapidement, à la fin des années 2000, donc depuis maintenant une petite quinzaine d'années, un mouvement qui s'est créé, qui s'appelle le jeu vidéo indépendant, qui sont donc des jeux beaucoup moins, qui coûtent moins cher à faire, et qui du coup peuvent se permettre de vendre à moins de bah, à moins de gens et donc d'être se permettre d'être beaucoup plus originaux et créatifs et ça peut être intéressant de se tourner par là parce que là il y a beaucoup plus de diversité et aussi de respect de la diversité dans ce type de production. Et d'ailleurs on remarque que souvent les jeux blockbusters laissent les jeux indépendants tester un peu des recettes, se viander plus ou moins, et arriver 5 ans après en reprenant les mêmes recettes et avec leurs gros moyens pour récolter un peu les fruits semés par l'industrie du jeu
indépendant. Merci d'évoquer ça, ça va me faire la transition parfaite vers ma dernière question, parce que Marga me fait remarquer que le temps passe, même si c'est passionnant et que moi, franchement, je pourrais passer la nuit à en discuter.
J'ai le mauvais rôle. Vous m'avez donné le personnage chiant, celui qui n'est jamais content, qui me dit « c'est l'heure, faut avancer !»
Et oui, vite. Donc du coup, une question que j'ai envie de vous poser tous les trois, c'est que finalement, parce que là tu parles des jeux indépendants qui existent depuis une douzaine d'années, et ces fameux espaces indépendants où on peut se recréer, qui se posent aussi pour le cinéma, la presse, enfin on en a parlé en début d'épisode. Finalement, est-ce que le gaming est un espace qui permettrait de nouvelles représentations, qui permettrait de renforcer ou non la lutte intersectionnelle? Est-ce que d'après vous, il peut y avoir des impacts positifs au changement des représentations et à la diversification des contenus de gaming?
Tout le monde veut parler en même
Camille,
temps.
Camille, je t'entends réagir.
Camille.
Très rapidement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut devenir un espace de changement, d'impact positif, de lutte intersectionnelle. Après, bon, faut déjà essayer de pouvoir laisser plus de place aux personnes concernées, donc de la création par et pour les personnes concernées. Il y a notamment tous les jeux queer games qui se développent pas mal dans cette initiative-là. On a de plus en plus de gros jeux à grand budget qui proposent des alternatives aux jeux compétitifs, empreintes de valeurs virilistes, qui sont plutôt les care games. Donc, en tout cas, l'industrie du jeu vidéo est en train de se renouveler là-dessus. Après, c'est vrai que pour être un espace de lutte intersectionnelle, on a bien vu avec ce qu'a amené Thomas, c'est des espèces d'énormes paquebots, c'est super difficile de faire évoluer les choses. C'est un peu d'identifier c'est où les zones où on peut venir mettre notre grain de sel. Donc il y a les studios directement avec de la formation, ça peut passer par des financements qui obligent à faire de la formation sur certaines discriminations, peut-être que c'est là qu'on peut commencer à agir. Ça passe par les communautés de joueurs et joueuses qui proposent du contenu ou qui font remonter des problématiques, notamment par exemple les Sims, qui sont quand même assez connus pour avoir proposé plein de choses super inclusives. Bon, bah là, ont été rattrapés par leur communauté qui leur ont fait remarquer que, bah, par exemple, les couleurs de peau non blanches et notamment les cheveux crépus étaient souvent pas assez détaillés, que ça manquait de détails et de finitions. Bah finalement la communauté a fait pression, ça a fait que Ye Games a bougé. C'est quand même un gros tank, on peut agir aussi à cet endroit-là, et je pense qu'on peut vachement agir au niveau des écoles de jeux vidéo en essayant de proposer déjà aux futurs développeurs, développeuses de jeux de sensibiliser à ces enjeux. Par contre, c'est un milieu qui est tellement fermé. C'est vrai que d'envoyer les personnes concernées, je ne sais plus qui l'a dit plus tôt dans le podcast, c'est un peu toujours les mêmes du coup qui se retrouvent à aller au front quand on veut une personne concernée qui vient parler sur ces enjeux-là. Du coup, ça peut être épuisant, ça peut venir essentialiser. On ne me parle de mon boulot qu'à travers mon identité de femme, de personne racialisée, etc. Et du coup, je pense que c'est super important de créer des alliés qui parlent en tant qu'alliés, qui ne parlent pas à la place des concernés, mais qui soient vraiment là pour accompagner justement toutes ces transformations.
Thomas, un petit mot sur la question ?
Ouais, hop là, excusez-moi, je m'étais mute. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Camille, rapidement sur la place des alliés, c'est sûr que c'est, comme on disait, un espace où les minorités sociales sont encore très en minorité. C'est important aussi d'avoir effectivement des personnes qui vont laisser, enfin, qui vont ouvrir un petit peu le champ et laisser de la place par la suite pour que des personnes en minorité puissent un peu plus en prendre, quoi. Ça, clairement. Et puis, il y a aussi, peut-être pour évoquer deux, trois structures qui travaillent aussi sur ces sujets en France. Je pense que c'est important, donc là, il y a Afro Gameuse et Game Impact qui sont présentes ici ce soir. C'est important de parler aussi, je pense, du STJV et de Sud Solidaire Informatique. Donc ça, c'est plutôt qui travaille sur les conditions de travail, mais aussi justement de harcèlement, etc., au sein des entreprises du jeu vidéo. Donc le STJV, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo et qui produisent du contenu critique justement sur la manière dont se produit le jeu vidéo et donc la manière dont ça impacte les contenus qui sont produits. Et donc ils militent aussi pas mal pour plus d'inclusivité, etc. Et voilà, donc vous pourrez aller voir STJV, je posterai tout à l'heure le lien. Et ça peut être utile non seulement pour des personnes qui travaillent dans le jeu, mais aussi pour acquérir un œil critique dessus, pour les personnes qui jouent juste.
Ok, voilà. Super. Donc il y a beaucoup d'initiatives. On vous sent tous les deux assez optimistes sur la question. Jennifer, le gaming, ça peut être un outil de lutte intersectionnelle ?
Oui, pour moi, évidemment, dans le sens où c'est un médium. Enfin, le gaming, c'est quand même le premier médium de divertissement aujourd'hui dans le monde. Hein. C'est arrivé devant le cinéma tout de même. Donc, c'est pour dire le potentiel du médium. Et c'est un média créatif. En fait, le principal média, selon moi, qui peut vraiment permettre à énormément de gens d'incarner différents rôles dans notre société. On peut aussi bien nous faire rêver, qu'on peut aussi nous faire voyager, qu'on peut nous faire incarner, nous mettre en fait dans des rôles et dans la vie aussi d'autres personnes, des vies qu'on n'aurait jamais imaginé incarner en fait. Et je pense qu'à travers ça, on peut partager énormément d'histoires et sensibiliser en fait des gens à énormément de questions. Et sur les questions d'identification, moi j'ai joué toute ma vie à des héros blancs, cisgenres, hétéros qui ne me ressemblaient pas, mais ça ne m'a pas vraiment dérangé en fait. Ça ne m'a pas empêché parfois d'apprécier mon expérience de jeu, et je pouvais m'identifier à eux à travers leur histoire. Ce qui m'a surtout embêtée, c'était l'absence, la rareté de héros qui pourraient me ressembler. Si on parle typiquement de l'afro-fantasy, en tout cas de la fantasy tout court, c'était très très rare de retrouver un héros, une héroïne qui allait me ressembler dans cet univers-là. Et c'est même quelque chose qui est hyper contesté, en fait, contesté par beaucoup de joueurs qui pensent qu'on n'a pas notre place dedans. Pourquoi est-ce qu'on est dans Game of Thrones ? Pourquoi est-ce qu'on est dans House of the Dragons ? Toutes ces controversies, pourquoi est-ce que la petite sirène est noire, etc. C'est des débats qui ont lieu. Maintenant, je reste optimiste, en fait, sur la question, parce que je pense que c'est justement, comme tu disais tout à l'heure, Camille, en investissant le domaine, qu'on pourra faire évoluer les choses. Et c'est vrai que je compte évidemment, bien sûr, sur les jeux indés, parce que c'est eux qui ont apporté une certaine fraîcheur, ils ont souhaité se démarquer. Il est aujourd'hui un petit peu plus accessible aussi de développer son propre jeu si on le veut. Donc c'est grâce à ça que plus de personnes de divers horizons arrivent à développer des choses nouvelles. Mais c'est aussi parce qu'ils ont envie de se démarquer de ce qu'ils font déjà les gros, qui derrière donc vont repiocher leurs idées et puis en faire ces énormes trucs qui ne marchent pas toujours d'ailleurs. Heureusement. Mais oui, je pense qu'il faut rester optimiste, parce que clairement, moi, je ne ferais pas ce travail-là, en fait, si je pensais que c'était complètement mort. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est la force des joueuses, des communautés existantes qui travaillent sur tous ces domaines-là. Et puis, les studios indépendants s'intéressent fortement aussi à ces questions-là. Et je sais qu'avec Afro Gameuse, par exemple, on fait des partenariats avec certains studios, que ce soit juste pour participer à des sessions de playtest, c'est-à-dire, eux, ils sont en train de développer leur jeu, ils vont arriver à un certain moment où ils ont envie de le faire tester par des personnes pour savoir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'ils en pensent, surtout quand ça va être des personnes qui sont concernées par ce qu'ils sont en train de développer. Je sais pas, si on parle du jeu Tell Me Why qui va mettre en avant une personne, un homme trans, par exemple. Ils vont aller voir des communautés des communautés de personnes trans pour leur dire, voilà, teste mon jeu et dis-moi ce que t'en penses, etc. Et je trouve que c'est hyper important de passer par ces canaux-là, en fait, pour faire évoluer, pour se déconstruire et puis pour faire évoluer le contenu qu'on propose parce qu'il affecte absolument tout le monde autant que le cinéma. Donc voilà, le jeu vidéo, c'est un médium qui est ultra fort. C'est un médium qui est international, vraiment universel, donc il a en fait un rôle à jouer, de grandes responsabilités selon moi.
Ben merci, merci pour cette force, merci pour cet optimisme. Ça fait de vous tous de vrais warriors et ça me donne presque envie d'aller tester des jeux vidéo dès demain en fait.
Ça y est, Zina est devenue gameuse.
Et voilà les Warriors, c'était la deuxième partie de notre épisode sur le gaming qui portait sur les enjeux de représentativité et d'identification. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rester dans le coin parce que le prochain épisode est également passionnant. Il sera disponible dès la semaine prochaine ou il est peut-être déjà disponible si vous écoutez l'ensemble un peu plus tard, peut-être en 2023. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours sur nos réseaux sociaux, notamment sur Insta. On devrait mettre une partie du live aussi sur Twitch. Dans tous les cas, bonne écoute et à bientôt.